Interview.
107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr avec David Botin. Salut.
Salut.
Alors, on va parler un petit peu avec toi de vin bio naturel, surtout à l'occasion d'un événement que tu proposes à ta cave le 4 mai prochain. C'est
oui,
à Barsac.
C'est ça.
Vin naturel, d'ailleurs, on en déguste un peu. Faut toujours consommer avec modération. Hein.
Oui.
Mais parle-nous de cette dernière production.
Ça, c'est pas vraiment un vin naturel, mais c'est le petit Piou. C'est un vin que je fais depuis 4-5 ans. Moitié muscat, moitié clairette, en tranquille, voilà, sans sucre résiduel, fruité, léger, et très agréable. Voilà,
c'est quoi la méthode de Vigny pour ça?
C'est fermentation alcoolique en cuve, tout simple, levure naturelle, sans addition de quoi que ce soit, un peu de soufre. C'est pour ça que je ne suis pas en naturel.
Ah, voilà. Le vin naturel, c'est jamais de sulfite.
Ou très très peu, quoi. Très peu.
Alors pourquoi on souffre?
Bon, on souffre parce que c'est religieux, ça, non? La souffrance. Merde.
Ah.
Non, on souffre pour conserver les vins, pour pas qu'ils s'oxydent. Voilà. Et puis c'est.
En vin naturel, faut avoir un gros débit, quoi. Faut vendre rapidement, quoi.
Bon, ça dépend. Faut voir l'équilibre général du raisin déjà, voir l'acidité qu'il y a, les sucres. Voilà, comment la vinification, comment ça se passe, s'il n'y a pas trop d'oxydation. Non, ça peut se conserver quand même. Bon, mais quand même, ce n'est pas des vins de garde à 15 ans, c'est des vins qui peuvent se conserver un peu. S'ils sont bien vinifiés, sans oxydation, ça peut se conserver un petit peu, ouais.
Globalement, les vins blancs, de toute façon, ce n'est pas fait pour être conservé.
Non.
Pourquoi d'ailleurs, vin naturel, cet événement, et que là, ça n'en est pas un? Tu en fais quand même?
Non, je ne fais pas de vin naturel. Moi, j'ai fait un essai cette année avec du savagnin.
Qu'est-ce?
Un truc extraordinaire. C'est un copain à moi. D'ailleurs, Hubert, notre cher Hubert, à qui je lève mon verre.
Ouais, allons-y.
Qui est parti faire le tour du monde avec mon cousin. qui sont en Autriche aujourd'hui.
En moto, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc lui, il a planté des savagnins à Barsac. Voilà. Il y a 4 petites raies de rien du tout. On a ramassé 2 caisses de raisins. Et on a fait un vin naturel on a fait un vin orange. C'est un vin blanc qui est vinifié comme un vin rouge. Et c'est extraordinaire. C'est génial.
Attends, mais dis-moi en plus, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on laisse
le grain de raisin tout, avec le jus. Et,
voilà.
Pour un blanc,
les
quoi,
grappes,
c'est pas
tout,
commun.
Ouais, normalement, tu presses et tu enlèves.
Voilà. Voilà. Et là, on a éraflé à la main dans une petite cuve de 150 litres. Et on a fait macérer ces graines pendant 3 semaines.
Pourquoi ça se fait pas?
Ça se fait maintenant, ça se fait de plus en plus, les vins oranges. Mais c'est vachement intéressant, quoi. Et du coup, il est super, quoi. Il n'y a rien dedans, il n'y a ni soufre, ni collage, ni rien du tout, quoi. On a mis un verre de muscat en fermentation pour le faire partir. Et là, il est encore en cuve sous son plafond mobile. On le déguste de temps en temps, mais il y a 10 litres de jus, quoi. Il n'y a que dalle. Mais du coup, c'est une première expérience qui a été assez bien réussi.
Alors pourquoi est-ce qu'on enlève traditionnellement les peaux sur les vins blancs, les grappes, tout ça?
Bah parce que c'est des habitudes, quoi. Les vins blancs, on les vinifie sans la peau, et les vins rouges avec. Parce qu'on n'a pas besoin d'extraire de matière colorante dans un vin blanc de la peau.
Mais au contraire, on veut qu'il soit le plus transparent possible.
Ouais. Et du coup, le fait de garder les peaux, ça tire un petit peu de matière colorante dans la pellicule. Et puis un peu des tanins, et du coup, ça lui donne un peu de corps, un peu de caractère. Il fait 13,5 naturel.
Oula.
Mais voilà, c'est super. Première expérience.
Bon, bah alors, on attend de voir. Hein.
C'est ça.
Je veux bien le goûter, même si avec 10 litres. Alors, tu fais aussi de la clairette de Die, bien sûr, brute, tradition. C'est d'ailleurs principalement pour ça que tu es connu. Pourquoi est-ce que ce muscat-là, ce muscat clairette tranquille qu'on est en train de boire, ne part pas en fermentation? Ce serait une petite occasion de rappeler à tout le monde comment on fait de la clairette.
Pourquoi il ne mousse pas, tu veux dire?
Oui, pourquoi il ne fait pas de bulles?
Il ne fait pas de bulles parce qu'on a laissé s'échapper le gaz carbonique. On a vinifié ça dans une cuve ouverte, enfin un plafond mobile, mais avec une petite échappatoire pour le gaz carbonique. Et la fermentation s'est déroulée complètement jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sucre du tout, tout transformé en alcool. et on n'a pas conservé le gaz carbonique qui s'est échappé dans la cave. Donc on fait des vins tranquilles. Voilà. Alors que si on veut faire un vin mousseux, on va enfermer la fermentation alcoolique dans une bouteille, par exemple, qui est bouchée avec une capsule. Donc le gaz va se mélanger au vin et nous produire cette fameuse clairette de Die.
Donc tu as deux clairettes, c'est ça ?
J'ai deux traditions.
Deux traditions.
Et une brute.
Et une brute. Alors c'est quoi la différence entre les deux traditions ?
Eh bien déjà j'ai la tradition classique, donc c'est un assemblage de toutes les parcelles sur une année. C'est le vin qu'on fait le plus, on ne change pas grand chose, c'est toujours à peu près la même recette. C'est 100% muscat parce que j'ai très peu de clairette. Et c'est avec 55-60 grammes de sucre résiduel au final. Voilà, c'est un vin qui est très bon, très fruité, très doux. Et après, je fais une cuvée spéciale, une vieille vigne que j'appelle l'Éclos. C'est trois vieilles parcelles qui sont dans une cuve. Et donc, je fais une clairette de Die en méthode ancestrale avec peu de sucre résiduel. On est à 35 grammes de sucre résiduel. Donc, on est à la limite basse du cahier des charges clairette de Die. En dessous de 35 grammes, on n'a plus droit à l'appellation clairette de Die. Donc, c'est une clairette qui est assez sèche, fruitée. Et un peu plus de caractère, plus alcooleux. Voilà, elle est pas mal.
Ça, c'est dû au fait que les vignes soient vieilles
Non. Non. Non, c'est seulement dû au stade d'avancement de la fermentation alcoolique. On met en bouteille un peu plus tard, il fermente un peu plus longtemps en cuve pour qu'il y ait moins de sucre résiduel au final après la prise de mousse en bouteille. Il y a un peu plus de sucre transformé en alcool en fait.
Et toujours 100% muscat.
Ouais, toujours.
Et enfin, la brute. Et là, tu mets un peu de clairette, du coup.
Ouais, 100% clairette.
Ah, 100% clairette.
Donc, la brute qui est toute simple aussi, pas d'addition de quoi que ce soit, levure naturelle, avec des clairettes qui sont très vieilles. On a une très bonne base en clairette, parce qu'elles sont de 68, exposées plein sud. On a toujours de très, très belles clairettes. Donc, la base est formidable pour faire un bon brut. Voilà, et j'adore vinifier les clairettes.
Pourquoi ?
Parce que en cuve, c'est juste magique. Ça sent le pamplemousse, le citron. C'est génial, quoi. J'arrive pas exactement à retrouver ça en bouteille, mais ça me plaît de vinifier les clairettes. J'aime beaucoup ce cépage.
Et d'ailleurs, ce serait l'occasion d'en planter plus ou comment ?
Non, je n'ai pas envie de m'agrandir.
Oh non, on ne va pas s'agrandir, mais au dépend des muscats qui sont en train de mourir.
Non, non.
Il y en a bien.
Ouais, mais non, on garde les muscats qu'on a et les clairettes qu'on a. Mais on remplace cette vieille vigne, par contre, pour qu'elle essaie de la conserver. Et voilà. Par contre, j'ai un projet de vieux cépage en muscat. J'ai fait greffer des muscats de 54 que je veux remettre sur une parcelle pour voir ce que ça peut donner au niveau des maladies du bois. Voilà, qui est un pépiniériste qui travaille assez bien. Il est en Alsace, il s'appelle Ebinger. Il a une greffe à lui qui s'appelle F2. C'est une greffe en couronne où apparemment la soudure est très très bonne. Et il travaille en biodynamie avec respect des flux de sève au niveau de la taille. Donc voilà, c'est une parcelle un peu test pour voir ce que ça peut donner au niveau de l'ESCA par exemple.
Oui, voilà, cette maladie qui vient faire un gros champignon au cœur même de la souche.
Ouais. Donc voilà, c'est un peu une expérience à voir. On la plante l'année prochaine.
C'est des vraies questions, cette histoire, parce que cette maladie-là, notamment, maintenant, il commence à y avoir tout un tas de normes qui, y compris, devraient peut-être imposer, et on n'en a pas parlé encore, même si on l'a déjà dit que tu étais en bio, imposer aux agriculteurs en bio de devoir traiter, des trucs complètement dingues. C'est des solutions qui sont concrètement étudiées, ça, retrouver des cépages anciens, voir.
Je ne sais pas si c'est étudié, mais en tout cas, moi, je le fais pour moi, quoi.
Ouais. Pour voir aussi.
Pour voir aussi ce que ça peut donner. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de traitement contre l'ESCA. Voilà. Avant, il y en avait, mais il était interdit, le produit. Mmh. Et tant mieux, je crois. Mais justement, il faut voir au niveau des greffes. Apparemment, il y a des problèmes au niveau du greffage. Et puis, il faut voir avec les sélections massales si c'est mieux qu'avec les clones. Mmh. C'est pour ça que je fais greffer des biomuscats.
Eh oui, voilà. Alors donc, tu es en bio aussi, hein ?
En bio depuis 2011 et labellisé depuis 2014. Peut-être un passage en biodynamie d'ici peu.
Ah oui.
Ouais, j'aimerais bien, ouais. On fait des formations régulièrement avec les copains du DIWA qui sont en biodynamie déjà. Et voilà, ça m'intéresse fortement.
Alors c'est quoi, on le rappelle, hein, c'était déjà un objectif pour toi au départ de te mettre en bio suite à ton histoire familiale, et on va inviter tout le monde à aller piocher dans nos archives d'Air DIWA. Tu parlais de te former auprès des autres, mais est-ce que toi aussi tu transmets ça, tu pousses un peu les gens à s'y mettre, par exemple à Barsac, je sais pas.
Bah, on discute, on discute avec déjà les copains, on raconte ce qui se passe dans nos vignes, après pousser pas forcément, mais juste d'échanger c'est déjà pas mal, ça peut ouvrir les écoutilles. et des esprits de...
Montrer que ça marche déjà.
Montrer que ça marche, ouais. Et puis... Mais je pense que petit à petit, tout le monde va y aller, tranquillou.
Est-ce que tu as un truc à dire sur ce qui se passe avec le cuivre ?
Non.
Non.
Il y a trop de cuivre dans les sols ?
Oui, voilà. Enfin, il semblerait que peut-être, à un moment donné, ça va être interdit d'utilisation, ouais. En conventionnel comme en bio, plus jamais. Et donc, ouais. En bio, on sait à quel point...
C'est important.
C'est ouais. Important, c'est le dernier rempart.
C'est parce que le glyphosate, c'est pas dangereux, alors on peut continuer.
Non, voilà. Ouais, bien sûr.
Non, mais le
cuivre... Non, mais là, au-delà de la polémique des bio, anti-bio, et c'est souvent quelque chose qu'on reproche aux agriculteurs en bio, oui, vous balancez du cuivre tout le temps, mais ouais. En même temps, vous balancez que ça.
Oui. Non, mais le cuivre, il faut pas en boire au petit déjeuner le matin, c'est sûr qu'on risque de ne pas passer la journée tranquille. Mais il y a des solutions pour en mettre moins, ça c'est sûr. Donc déjà, faut pas des vignes trop vigoureuses, pas mettre trop d'engrais. Il faut limiter avec les enherbements aussi, la vigueur de la vigne. Et puis, il y a des associations de plantes qui peuvent être intéressantes, avec la prêle, l'ortie, la consoude. On peut encore baisser les doses de cuivre. Mm-hmm. Voilà, mais il faut essayer, il ne faut pas... C'est les conditions économiques qu'il faut regarder, quoi. Il ne faut pas être pris à la gorge par des endettements et être obligé d'être à 60 hectos chaque année. Parce que je pense qu'en faisant des essais comme ça, on peut perdre un peu de raisin avec du mildiou. Mmh. Mais en tout cas, il faut un peu prendre des risques et je pense qu'il y a des solutions. Voilà, mais c'est...
Notamment dans la biodynamie, tout ce que tu as cité.
La biodynamie, voilà. Mmh. Mmh.
Vin bio, vin nature. Alors bon, c'était dans le cadre de cet événement Lâche-moi la grappe, qui est là depuis le 5 avril, en fait, finalement.
C'est ça.
Et donc, tu as décidé de t'emparer de cet événement ?
C'est-à-dire qu'on a un peu eu des idées en même temps avec Étienne.
Du gîte de la Colombe.
Parce que bon, déjà, on fait un peu de musique ensemble et... Et avant de faire de la musique, on buvait des vins nature, comme par hasard. Après, on jouait vachement mieux, donc on a dit on va continuer.
Bah oui.
Et puis moi, dans les salons que j'ai fait, j'ai rencontré des vignerons en nature où j'ai fait des rencontres assez extraordinaires, quoi. J'ai rencontré des personnages étonnants, avec un dynamisme et une joie de vivre, une liberté incarnée. C'était trop bon, quoi. Et j'ai dit, j'ai envie de réunir ces gens un jour autour d'un événement. Et j'ai eu cette idée, à l'occasion de la porte ouverte, de changer un peu et de faire un mini-salon des vins nature. Et c'est là que j'entends dire que Étienne veut faire un salon des vins nature aussi. Donc je l'appelle en direct. Tu m'as piqué mon idée. Mais non, on a eu juste l'idée en même temps. Et du coup, on a décidé de faire un truc en commun. Et puis il y a Benjamin du Café du Pastel qui s'est joint à l'événement parce que lui aussi, ça... Voilà. C'est un fervent, un passionné.
Tout à fait, Café du Pestel qui donc en propose aussi à sa carte. Alors du coup, Barsac, Aurel, Oudi.
Ouais.
Alors donc il y avait le 5-6 avril, on le rappelle, il y a eu ça c'était donc à Aurel, le 3 mai au Café du Pestel, c'est pour bientôt, et donc le 4 mai c'est chez toi.
C'est ça.
À l'occasion de cette porte ouverte, on t'a déjà eu quelques fois à l'antenne pour cette porte ouverte, alors ça change. En gros, qu'est-ce qui va être proposé, le programme ?
Au début, c'est un peu comme d'habitude, on fait une belle balade dans les vignes le matin, j'espère qu'il fera beau. Une petite visite des parcelles, du village de Barsac qui est assez sympathique, puis ça détend et puis ça met tout le monde de bonne humeur et je trouve ça chouette d'emmener les gens qui viennent... visiter un peu le coin.
Ça ouvre l'appétit.
Et puis on revient à midi pour un petit repas préparé par la Tour Ambulante, qui nous fait un petit repas sympathique. Et donc après, il y a projection d'un film.
Alors là, il faut réserver, on le dit quand même, les
repas.
Oui, hein.
Faut réserver les repas, voilà. Du midi et du soir. Donc c'est 17€ le repas. Et c'est Eric, la Tour Ambulante, et Odile, voilà, je vais chercher son nom, qui nous prépare ces deux repas. Le midi et le soir, donc il faut réserver sur l'adresse mail portesouvertes@botin.com. Voilà, donc il y a encore de la place. Donc après, il y a un spectacle à midi aussi, mais c'est une surprise ça. C'est même pas noté, il y a un petit spectacle déambulatoire pour le repas, ça va être sympathique. Et à 14h, il y a donc la projection du film Résistance naturelle, donc de Jonathan Nociter, c'est le gars qui a fait Mondovino. Qui fait un film sur des vignerons italiens qui sont sortis des appellations parce que leur vin ne rentrait plus dans le cahier des charges des appellations, qui sont en biodynamie et en nature. Voilà, c'est assez intéressant, leur
parcours. Tu l'as
vu ? Je l'ai vu, ouais.
Et qu'est-ce que ça dénonce, selon toi, cette histoire, enfin, des appellations et des
cahiers des charges ? C'est assez vaste, hein, mais ça dénonce un peu... Ben moi, j'ai toujours été un défenseur des appellations, mais ça peut se retourner contre nous. Des fois, ça peut être enfermant, les appellations. Du coup, voilà, c'est bien qu'il y ait des gens qui luttent aussi pour faire vivre leur appellation.
Ou en tout cas, lui donner une orientation différente. On imagine bien que là, par exemple, pour l'appellation Clairette de Die, bon, il y a tellement d'acteurs autour de la table. On se rappelle, à un moment donné, certaines personnes voulaient introduire la vendange à la machine dans l'appellation, et puis finalement, ça n'est pas passé, ou partiellement.
Oui.
Ça, c'est ce genre de choses.
Oui, ce genre de choses. Et puis, quel vin on veut faire, et pour qui, et pour quel consommateur, et puis qu'est-ce qui nous fait vibrer dans notre travail. Pour moi, je ne m'occupe pas trop de l'appellation, en gros, mais en tout cas, je leur tire mon chapeau, parce qu'ils font un travail remarquable. Mais... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vibrer dans mon travail. C'est pour ça que je vais vers ces vins nature. Voilà. Moi, je suis un grand rêveur et, et c'est ça qui me fait avancer.
Donc, 14h, ce film, Jonathan Nociter.
Nociter, voilà. Et du coup, après, à 16h, il y a dégustation de vins bio et vins nature avec...
Alors là, t'as invité plein de gens.
Une ribambelle de vignerons de toute la France.
Que tu connais tous.
Ouais, je les connais tous. Donc, les Capriades... C'est deux personnes qui sont dans le Val-de-Loire qui font des pétnates, des pétillons naturels. Donc, c'est des méthodes ancestrales, comme la Clairette de Die, mais sans appellation, et avec les cépages de là-haut, le chenin, le cabernet franc. C'est très sympathique. Des vins secs ou moins secs, ça dépend, mais toujours en pétillant naturel. Après, il y a le domaine de Bois-Moissé. Donc, ça, c'est un vigneron de Gaillac qui est en nature, que je connais sur les salons parisiens aussi. Qui est un sacré personnage, la Confédération Paysanne, un bon vivant.
Qu'est-ce qu'il propose ?
Il propose les vins de Gaillac, mais je ne sais plus trop.
Ah, appellation, voilà. Donc.
Ouais, appellation ouais. Gaillac, ouais. Ensuite, il y en a deux DPO, donc le domaine Rousselin, que je connais depuis très très longtemps. On fait des salons depuis 20 ans ensemble, pas forcément en bio, avant conventionnel, salon plus classique. Puis ça a beaucoup bougé en 20 ans, donc voilà, on s'est jamais perdu de vue. Le domaine Rousselin, voilà. Eliantem, donc c'est les Pyrénées Orientales aussi, un gars que j'ai rencontré sur les salons aussi. Olivier, qui fait des vins remarquables, avec une toute petite structure. Il vinifie dans son garage, il a entassé des cuves les unes sur les autres. Un peu à l'arrache, mais il fait des bons vins quand même.
Voilà, les Côtes de Roussillon, donc.
Ouais, Côte du Roussillon. Ensuite, Olivier Mavitte. Alors, Corbière, lui, il est très chouette aussi. Bon, je ne peux pas m'étaler sur tout le monde parce que ça serait compliqué. Mais voilà, c'est tous des gens avec qui j'ai quand même des accroches amicales, on va dire. Mmh. Voilà, on a bien rigolé ensemble. On s'est bien entendu, on s'est bien accordé sur pas mal de choses. Donc, c'est chouette de tous se retrouver. Après, il y a deux inconnus au bataillon pour moi. C'est la ferme des Sept Lunes.
En Ardèche.
En Ardèche. Et Sylvain Bock, que j'ai rencontré du coup il y a 3 jours. Je suis passé le voir chez lui, mais je ne le connaissais pas. C'est plus le bouche à oreille, en fait, qui m'a fait rencontrer ces deux cas. Et ensuite, Savoie et Grésivaudan. Donc Mathieu Apfel, c'est un jeune qui vient de s'installer en Savoie, que je ne connais pas beaucoup non plus, qui a l'air très sympathique. Et le domaine des Rutissons, eux, ils sont pas en nature, ils sont en bio, mais ils travaillent des vieux cépages. Donc il y a des trucs hyper intéressants avec des très vieux cépages. Genre les traires de la Duy, que je me rappelle. Voilà.
Il y a des vieux cépages ici, en local.
Il y a quelques aficionados, mais il y a un vieux cépage, j'aimerais bien réintroduire, qui s'appelle le Fenat. C'est un cépage autochtone d'Ivoire, un cépage rouge. Et moi, j'ai le projet de faire une petite parcelle pour faire une cuvée de rouge, certainement en nature.
Donc lui, il a été retrouvé, il est en pépinière en ce moment,
enfin, il reste quelques plants dans le Diwa, il faut les faire identifier et puis greffer les bois, mais ça serait intéressant.
Ah oui, ils sont là en sauvage, ils traînent quoi.
Plus ou moins en sauvage, dans certaines vieilles parcelles. Il y a quelques plants par-ci, par-là. Ouais. Mais ça serait chouette de le remettre au goût du jour. Moi, j'ai bien envie de faire ça aussi. Ça fait partie de mes projets d'avenir.
Et David, d'ailleurs, on parle de vin nature avec toi, et puis de projets d'avenir, de faire du vin tranquille avec des muscats. Toi, tu n'es pas en appellation, justement, sur les vins tranquilles ici. C'est Châtillon-Andiois, Barsac, ça n'y passe pas. Donc forcément, il faut, pourquoi pas, disons, partir vers le vin nature et avec une autre
J'ai pas
force
eu
de
les...
frappe. Quoi,
j'ai pas eu encore la niaque pour y aller. Quoi. Je flippe encore trop de rater des cuvées et... Ouais, faut que je fasse des petits essais.
Le rouge, c'est un autre délire, quoi.
Bah, c'est un autre délire. Non, mais même en blanc, tu vois, celui-là, j'aurais pu le faire en nature, le Piou, mais j'y arrive pas. Quoi. J'ai pas pris. J'ai pas pris le risque encore, voilà. Après, financièrement, ça n'a pas toujours été simple. Du coup, quand j'attends un peu de remonter un peu les finances pour arriver à avoir les cacahuètes de prendre ce risque-là. Puis il faut qu'il y ait du raisin aussi, que ça arrête de geler, nom des dieux.
Ouais, tout est dit. On continue sur cette soirée, sur cette journée du 4 mai, puisque en soirée, ben, on n'a pas fini. Hein, à 18h, un petit spectacle des Flying Frenchie. Tiens, tout d'un coup, Étienne est encore là.
Étienne est encore là, mais cette fois, il arrive... pas par la route, il arrive, il tombe d'un nuage, étonnant, ouais. Étienne arrive du ciel, ben, je crois pas que ça soit si étonnant que ça,
non.
Mais voilà, ça va être le spectacle à 18h, ça va être Étienne qui nous tombe du ciel.
Avec toute sa bande, hein, les Flying Frenchies, donc n'hésitez pas à aller voir sur internet en tapant juste ce nom, vous allez voir, c'est assez hallucinant.
C'est ça. Bon après, je laisse la surprise, mais...
Oui, ils font toujours des trucs nouveaux, hein,
c'est ça.
Sur le moment.
Donc on va voir, surprise pareil à 18h.
À 20h on mange.
20h on recasse une petite croûte parce qu'on aura bien dégusté des vins nature, donc il faut y plonger.
On les crache pas les vins nature.
ça dépend quand même, faut faire attention ceux qui prennent la route de cracher un petit peu, parce que sinon ils peuvent dormir sur place.
Ah.
Bon, il y a le champ, un petit duvet, une toile de tente et bon, okay, il y a moyen
c'est...
de.
C'est très bien de le préciser.
De dormir sur place. Voilà, et après un petit concert, ou même un grand concert, j'espère, avec The Jelly Sugar Band. Alors là, j'ai pas trop d'infos.
Bah, ils sont quand même souvent passés dans le coin, ça c'est déjà ça. Ouais.
Et du coup, je suis hyper content de les recevoir à la cave, parce que le peu que j'ai vu sur Internet, ça a l'air de dépoter sévère en jazz New Orleans, jazz roublard, comme ils disent.
Un gros big band, quoi.
Ouais, ouais. Apparemment, ça va swinguer.
Alors, quand ils passaient dans le coin, ils passaient dans des petits lieux. Certains voilà, les ont vus passer. Ils sont passés une fois à la Buena Sondas, il me semble aussi.
Okay.
Mais en tout cas, ça commence à faire déjà un petit moment. Et c'est vrai que ça vaut le détour.
Ouais. Hein. Et apparemment, ils sortent un disque, là.
Ah. Mm. Et ils t'ont envoyé de la musique. On se quittera avec ça.
Ouais.
On a tout dit.
Ben, ma foi,
David,
je crois,
t'as un site internet, quand même.
J'ai un site internet, mais qui n'est pas bien à jour. J'ai une page Facebook qui est plus à jour parce que c'est plus accessible pour moi.
Plus rapide. Depuis rapide. Le téléphone, sur le tracteur.
C'est
hop.
Ça, on prend des photos de raisins, de feuilles de vigne. On voit ça sur la planète. C'est magique.
Et puis, il y a deux numéros de téléphone. Est-ce qu'ils ont un intérêt?
Certainement.
Tu peux le dire en gros.
Bien, j'y vois plus rien. Bah oui, c'est les miens. Ils ont un intérêt, ouais. Si vous voulez réserver, vous pouvez m'appeler. Et si ça répond pas, vous laissez un message. En général, j'écoute mes messages et je note les réservations. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez pas manger, vous pouvez venir faire la fiesta. C'est pas sur réservation la fiesta. Mmh. C'est juste les repas.
Tu lui donnes les numéros?
09 61 47 87 01, ça c'est celui de la cave. Et 06 79 58 00 15, c'est mon portable.
Ça c'est pour l'embêter sur le tracteur donc.
C'est ça. Eh bien écoutez, au plaisir de vous voir autour d'une coupette de clairette.
Merci David, à la prochaine.
Merci à toi, ciao ciao. Get my mojo working.
mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Working. Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo.
Got my mojo working.
How my mojo.